petite histoire qui n'est absolument pas vraie, une histoire qui nous rappellera notre tendre jeunesse. Tout le monde a déjà entendu parler ou lu quelque part ces fameuses histoires avec le fameux génie, la lampe, le gars qui vient frotter, puis voilà, faites votre vœu. Alors on raconte cette histoire qui ne tient pas debout, mais qui a un enseignement intéressant. C'est un jour un monsieur qui a 60 ans et son épouse a le même âge. Donc son épouse a 60 ans, merci, parce que ça c'est important pour moi. 60 ans tous les deux. Et tout d'un coup il trouve cette fameuse lampe, il la frotte et le génie sort et le génie lui dit « Tu as le droit à un vœu et le vœu que tu vas faire, je vais l'exécuter. » Et le monsieur, il réfléchit, puis tout d'un coup, il a un vœu bien spécifique. Et il dit au génie, « J'aimerais bien avoir une femme qui a 20 ans de moins que moi. » Ça s'exécute ipso facto, il a 80 ans. Il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, n'est-ce pas? Si je dis cela avec une bonne dose de blague, comme vous l'avez remarqué, malgré tout, dans nos vies chrétiennes, ça peut être aussi comme ça. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on va demander au Seigneur. Il y a même des gens qui font des prières un peu exceptionnelles. Une sœur âgée qui est décédée il y a un moment me disait un jour qu'elle était un peu coincée dans une situation de sa vie de tous les jours. Elle ne savait pas quoi faire et elle ne voyait pas vraiment d'issue à sa situation, hormis un mensonge. Et là, en discutant avec elle, je lui ai demandé « Mais tu as fait quoi alors ?» Et elle m'a dit « J'ai prié. » Et moi, pastoralement parlant, j'étais content, quoi. Elle a prié. Et je lui ai dit « T'as prié quoi ?» Elle a dit « Seigneur, tu fermes tes yeux et tes oreilles 5 minutes et tu reviens après. » Je ne vais pas vous parler longuement de la prière, mais c'est vrai qu'on a bien des exemples dans ce domaine qui nous font quelquefois frémir. On prie de manière rituelle, même si on n'est pas d'accord. On utilise quelquefois des mots dans nos prières qui, moi, me font réfléchir, parce que je le fais aussi moi-même. Quand j'entends dans mes propres prières que je demande au Seigneur pour que tu puisses, ça me gêne toujours un peu quelque part, parce que le Seigneur, il peut. Pourquoi je lui demande que tu puisses ? Mais ça fait partie de notre langage. Quand quelquefois on critique les prières rituelles qui sont faites ailleurs, je m'aperçois que quand je vais prier le Seigneur pour le repas que j'ai, c'est des prières presque rituelles. Hein. C'est pas comme ça chez vous? Ah, vous priez pas pour le repas? Ben, comme ça c'est plus simple. La prière, on parle souvent de la prière avec foi. Là aussi, je suis gêné aux entournures. J'ai l'exemple d'il y a plusieurs années d'une dame qui était en fauteuil roulant qui est venue me voir, fauteuil roulant électrique, elle est venue me voir en me disant « Je suis dans une situation qui est très compliquée, je suis allé voir mon pasteur. Mon pasteur m'a dit que le Seigneur allait me guérir, que j'allais me relever, qu'il allait prier pour moi et que là, j'allais me sortir de cette situation. » Et je dis « Et alors, quel est le problème ?» Et elle a dit « Il a prié, et je suis toujours dans mon fauteuil. » Et il a dit, la chose la plus terrible pour moi, ce n'est pas le fait que je sois resté dans mon fauteuil, c'est que le pasteur m'a dit, tu n'as pas pu te lever parce que tu manques de foi. Et la question que j'ai posée à ce moment-là, c'était de dire, qui manquait de foi? Celle qui était assise ou le pasteur qui a prié? On peut toujours accuser l'autre, on peut toujours. Mais il y a quand même une grande question ou plusieurs grandes questions qu'on va se poser ce matin. Quand on lit les prières de Jésus, on en connaît. Il y a quand même des moments où j'aimerais en savoir un petit peu plus. Il est dit que Jésus passait des nuits en prière. Mais qu'est-ce qui se racontait entre lui et son Père alors que lui et son Père, ils sont un et ils passaient toute la nuit à prier? Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que dans les prières qui nous sont racontées dans le Nouveau Testament, en fait, la plus longue prière de Jésus, c'est Jean 17. Et c'est quelques versets, pas plus. Ça remet aussi en question ça. Qu'est-ce qui pouvait se raconter? Alors, en toute humilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'ai aussi passé des nuits en prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai commencé à prier le soir, et le lendemain matin j'ai dit Amen. Vaut mieux être honnête, hein. Et les questions qui restent dans ma tête, qui reviennent assez fréquemment, c'est est-ce que je prie de manière efficace? Ou plutôt, pourquoi Dieu ne répond pas à certaines de mes prières? Par expérience, je citerai aussi cette question qui est douloureuse, mais qui est vraie. Faut-il ou pas encore prier pour la guérison d'une personne déclarée comme en fin de vie par les médecins? C'est violent comme question, hein? C'est violent. Et de plus, une dernière question, c'est est-ce qu'une réponse positive à une prière est le signe que c'était la volonté de Dieu? Encore une autre question, hein? Je vous ai dit qu'on allait réfléchir ensemble. Je n'ai pas toujours les réponses. Alors, on va parler d'un certain nombre de personnes, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On voit un certain nombre de personnes qui ont prié, qui ont été des exemples. On peut parler de Néhémie, et j'apprécie beaucoup Néhémie chapitre 1er, avec sa prière assez exemplaire, qui ressemblerait presque au Notre Père. On va voir aussi Daniel, qui malgré les circonstances, priait 3 fois par jour à la vue de tout le monde. On va voir Moïse et Abraham, qui ont prié aussi de véritables échanges permanents avec Dieu. Et là, moi aussi, je suis toujours impressionné. J'aime pas faire ce qu'ils ont fait. On a l'impression qu'à certains moments, ils négocient littéralement avec Dieu. Écoute, Seigneur, s'il n'y avait que 50 juste, tu ferais quand même ça? S'il n'y en avait que 40, s'il n'y en avait que 30, puis bon, allez, c'est la dernière fois qu'on en parle, s'il n'y en avait que 10. Et vous connaissez la suite. Et Moïse, c'était pareil. Moïse qui est arrivé vers Dieu et qui a dit « Tu veux faire mourir le peuple et me garder moi ?» Ah, si j'avais été dans cette situation, moi je me serais tapé sur le ventre. Enfin, je suis reconnu comme quelqu'un de bien. Et Moïse a dit « Si tu les fais mourir, je veux mourir avec eux. » Une vraie négociation avec Dieu. C'est impressionnant, hein ? Moi, personnellement, j'ose pas trop. La liberté qu'ils avaient avec le Seigneur. La plupart des psaumes sont des prières chantées. On va voir aussi des prières un peu exceptionnelles, si je peux le dire comme ça. C'est notamment Anne qui était dans le temple, dans 1 Samuel chapitre 2. Vous connaissez cette prière où moi qui me fait mal au cœur, c'est pas la prière qui me fait mal au cœur, c'est la réaction d'Élie qui est arrivée là et qui a dit à Anne, ah, t'as vu ce que t'es complètement ivre, qu'est-ce que tu fais ici, tu ferais mieux de sortir, etc. etc. Il n'a pas pigé. Et c'est là où moi je me remets en question en tant que pasteur, il n'a pas pigé quelle était la véritable question de fond et qui n'avait rien à voir avec un excès d'alcoolémie. On voit aussi Paul dans les Actes, plusieurs fois il a prié et Dieu a réorienté ses projets, ses directions. Souvenez-vous de ce fameux passage où tout d'un coup Paul avait un objectif bien précis d'aller annoncer l'évangile à certains endroits et puis non, ça a été bloqué jusqu'au moment où dans un rêve il a vu un Macédonien, il a dit c'est là-bas où il faut que j'y aille. Il y a différentes formes de prières, je ne vais pas rentrer dans les détails, demandes, supplications, plaintes, etc., etc. Il y a différents versets qu'on connaît aussi. 1 Thessaloniciens 5, 17, moi j'aime beaucoup ce passage, qui dit prier sans cesse. Chaque fois que j'ouvre les yeux, c'est la première chose que je vois dans ma chambre. D'accord ? Prier sans cesse. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, 21. Mais malgré tout, ce qui va rester, c'est ces quelques passages que je vais signaler. Puis après, on va lire un texte. Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Matthieu 6, 10, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jacques 4, 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ceci, nous ferons cela, pardon, etc. Alors, on va étudier un cas particulier qui m'importe, et tu l'allumes encore pas maintenant, merci. Alors, on va prendre le cas de la nomination, de la reconnaissance, ou enfin, etc., de Saül comme roi. Et ça, ça m'importe beaucoup de voir un peu comment les choses se sont produites. Alors, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche le texte biblique pour que tout le monde puisse le lire en même temps. Alors, j'ai une flémingite aiguë, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne l'ai pas fait volontairement pour que chacun puisse ouvrir son téléphone ou sa Bible et puis qu'on puisse suivre le texte ensemble. Vous êtes d'accord? Je vous fais bosser un dimanche, ça, c'est pas possible. Hein. Il y en a qui revoient Jean-Haut en disant « Surtout, tu ne l'invites plus, hein, on est obligé de bosser. Hein. » En plus, c'est un petit rigolo. Alors, 1 Samuel 8, on va lire les 9 premiers versets. 1 Samuel 8. Vous avez trouvé? Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël, le second Abija, ou Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Et lui dirent, « Te voilà vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute, le peuple, dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Voilà l'arrivée de Saül. Et l'arrivée de Saül, il l'a affiché quand même, hein, pour qu'on parle tout à l'heure. Hein. Voilà l'arrivée de Saül. Il faut essayer de se mettre dans la peau des Hébreux de cette époque, des Juifs de cette époque, et de se rendre compte que la situation nationale est une situation qui est difficile. Il y a des pressions qui sont différentes, pressions des ennemis, en particulier des Philistins. Les pays aux alentours étaient gérés par des royautés. Israël, malgré tout, Dieu avait voulu qu'il sorte un peu de ce schéma pour bien montrer que la vraie vie d'un peuple devrait être de faire confiance en Dieu et de gérer ses fonctions, de gérer l'État en fonction de ce que Dieu voulait. Malgré tout, comme on le voit, les choses ne se sont pas passées exactement comme Dieu l'aurait voulu, et tout d'un coup, le peuple, vu cette pression, et vu en particulier que Samuel était vieux et donc qu'il n'allait plus exercer son boulot, vu aussi la situation de ses deux fils, le peuple a dit, mais quand on regarde autour de nous, ben voilà, ils gèrent ça très bien, ça se passe très 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 bien sans problème, alors pourquoi on ne ferait pas comme eux? Alors on va revenir à une frise qui a été faite par notre collègue David Schutz, maintenant tu peux l'afficher, et c'est la frise que je veux, merci, pas inverser les lignes. Ah, il la trouve plus, pardon. C'est bon? Voilà. Voilà. Alors, vous n'arrivez pas à voir, c'est normal, j'ai fait exprès. D'accord? Voilà. Donc, ne cherchez pas, j'ai mauvaise vue, faut que je change mes lunettes. Non. Cette frise, donc, si elle vous intéresse, vous pouvez toujours voir à équilibre, parce qu'ils doivent l'avoir sous forme papier, je pense, mais on peut l'avoir aussi sous forme PDF, et avec l'avantage que vous allez voir, c'est qu'on peut l'agrandir comme on veut, et c'est un grand intérêt. Vous voyez dans cette frise plusieurs rectangles de couleurs différentes. Je vais aussi vous dire une chose pour que vous ne soyez pas noyés, c'est que les femmes ne voient pas les couleurs de la même manière que les hommes. D'accord ? Les hommes, ils voient 4 couleurs, les femmes, elles en voient une multitude. D'accord ? J'ai jamais compris l'indigo, le machin, enfin bon, le bordeaux, tout ça, moi, ça me dépasse. D'accord ? Moi, une fois qu'il y a du blanc, du bleu, du rouge, du jaune, ça y est, c'est bon, hein, je m'arrête là. Vous êtes d'accord? Non, mais c'est pas grave. C'est ainsi. Alors, vous voyez tout en haut, je dirais du violet, pour vous faire plaisir.
Vous voyez donc tout en haut un grand rectangle là, et donc c'est les différents épisodes qui vont, épisodes historiques qui vont nous intéresser. On va aller du début de l'Ancien Testament et on va aller jusque dans le Nouveau Testament. Ensuite, vous allez voir des rectangles de différentes couleurs. Je vais donc déjà parler des quatre lignes qui sont en bas, je dirais du rouge. Et ces quatre lignes qui sont en bas, c'est ce qui se passait chez les autres peuplades. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en particulier tous les rectangles de couleur verte, de couleur bleue et violet foncé ou rose à certains moments. Vous êtes d'accord? Alors, pour vous aider, pour nous aider, on va zoomer un peu. Et donc, j'aimerais bien voir la partie où nous en sommes. Et tu vas faire apparaître Moïse et Josué. Donc, la partie à gauche, Abraham, etc., ça vous connaissez. L'arrivée à Canaan. Oui, tu peux zoomer, s'il te plaît. C'est l'ordinateur qui n'a pas bu son café. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Donc, voilà. On est là, la vie de Joseph, d'Abraham, etc. On va passer donc à cette période de l'Égypte, sortie d'Égypte, et puis on va arriver à cette période des juges. Vous allez voir dans le rectangle bleu, si tu peux encore zoomer un peu, s'il te plaît, qu'on arrive à lire Moïse. Enfin, peut-être c'est seulement moi. Oui, vous arrivez. Donc, hop, voilà. Tu pousses, voilà, merci. Alors, on voit cette fameuse période où on voit Moïse qui dirige le peuple. On va avoir ce moment bien particulier où Moïse va être repris par Dieu et puis Josué va prendre la succession. Et puis après, on va rentrer dans cette fameuse période. On rentre à Canaan, cette fameuse période des juges. Une première chose que j'aimerais faire remarquer ce matin, c'est que jusque-là, même s'il y a eu des turpitudes, jusque-là, le peuple faisait confiance à Dieu. Jusque-là, on savait demander pardon, on savait se repentir, on savait faire confiance, on savait se laisser diriger, et c'est comme ça qu'ils ont effectivement parcouru le désert, même si ça a duré 40 ans à cause de leur faute, etc., etc. Vous connaissez l'affaire. Ce qui est tragique, c'est qu'à partir du moment où Josué n'est plus, on va rentrer dans une période de turbulence spirituelle assez grave, et vous noterez comme moi que c'est à ce moment particulier où ils vont rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, donc un moment où tout aurait dû aller de manière formidable, que le peuple a commencé à quitter Dieu. C'est quand même incroyable quand notre vie pratique fonctionne, quand du point de vue financier on arrive à tourner, etc., notre relation avec le Seigneur va changer. C'est triste, mais une réalité. Ensuite, si tu viens un peu vers la droite, s'il te plaît, dans cette période des juges, voilà, merci, on a un certain nombre de juges, certains qu'on connaît, d'autres un petit peu moins. Gédéon nous dit quelque chose, mais bon, Othniel, Éhud, etc., Déborah, on va la connaître, et puis on va arriver à cette autre période avec Élie, et Élie, je vais en évoquer un petit peu plus. On connaît aussi l'histoire de Samson, et je passe tout le reste à cause du temps. On a eu Élie. Élie a fait son boulot aussi à l'intérieur du temple, et on le sait. On sait aussi que Samuel, à la suite de la prière d'Anne, Samuel a été formé chez Élie. Et on va voir qu'on est à cette année. Alors les années, c'est approximatif, hein, on ne va pas discutailler sur les années. Là, c'est moins, si je le dis bien, 1643, c'est ça, à cette période de fin d'activité de Samuel. Ce qui me touche à ce niveau-là, c'est que Samuel a deux fils. Il a nommé ses deux fils comme responsables. Et ses deux fils sont dépravés. Moi, je suis quand même choqué. Je dis ça pour moi en tant que pasteur et aussi en tant que parent et grand-parent. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa formation? Par qui Samuel a-t-il été formé? Par Élie. Comment
allaient les deux fils d'Élie ? Il avait deux fils aussi. Comment ils allaient, les deux fils d'Élie ? Ils n'y allaient pas bien non plus. Et il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Samuel a vécu dans cette situation, il a vu les deux fils d'Élie qui n'allaient pas bien, et il reproduit le même phénomène. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Au point que certaines personnes ne savent plus s'il s'agit d'Élie ou de Samuel. Ils refont, ils refont exactement la même chose, ils se retrouvent dans la même situation. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appris de l'histoire d'Élie ? C'est quand même difficile à comprendre. Et c'est à ce moment-là, bien particulier, que le peuple, voyant qu'il n'y a pas une accroche avec le Seigneur, avec les fils de Samuel, que Samuel devient vieux, qu'ils se disent, ben maintenant il faut trouver une solution, on va trouver une solution. Et ils ont cherché une solution humaine. Et leur solution humaine, c'est de quoi faire ? C'est de regarder autour d'eux, et puis de dire, ah mais tu vois, dans le monde, il faut comme ça. Pourquoi nous, on ne fera pas pareil ? Puisque ça fonctionne. Alors vous allez dire, mais ils auraient dû prier. Oui, ils ont prié. Donc ils sont venus avec leur proposition devant Dieu, et si vous lisez un petit peu plus loin que le chapitre 8, ils ont insisté auprès de Dieu pour avoir un roi. Ils ont insisté pour avoir un roi. Ils n'ont pas consulté l'Éternel pour voir qu'est-ce que t'en penses. Ils ont insisté auprès de Dieu avec leur sujet, nous avons besoin d'un roi. Et c'est là où Dieu va intervenir et va lui dire, et va dire au peuple, et dit, ah, vous le voulez, vous l'aurez. Mais n'oubliez pas ce qui va se produire. Et quand vous lisez la suite de ce fameux passage, Dieu va donner une description très claire de la pression que les rois mettront sur le peuple. Et le verbe qui va être utilisé à chaque fois, c'est le verbe « prendre ». Il prendra vos fils, il prendra vos filles, il prendra vos céréales, il prendra votre argent, il prendra, il prendra, il prendra. Vous savez comment ça s'appelle aujourd'hui ? Des impôts. Merci, je ferme la parenthèse. D'accord ? Donc c'est bien cela. Ils ont pleuré devant Samuel. Samuel a pleuré aussi, voyant qu'il se sentait aussi responsable de la situation. Dieu a dit « Ok ». Alors, Dieu a envoyé Saül. Saül, c'était un bon gars quand même, hein, un bon guerrier. En plus, il était grand, il était beau, de physique, est-il dit. C'était un homme assez impressionnant. Et en plus, il venait d'une tribu, d'une toute petite tribu, qui pouvait montrer un certain signe d'humilité, puisqu'il venait de la tribu de Benjamin. Merci beaucoup. Il venait de la tribu de Benjamin. Alors, on pourrait se dire qu'il avait tous les atouts pour jouer son rôle. Mais qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir par la suite ? On a eu Saül et après ? Alors, il y a eu Isbosheth et Abner, mais on n'en parle jamais trop. Ils sont intervenus un peu par hasard, entre guillemets. Après, on a eu David et Salomon. David, qui a été choisi longtemps à l'avance par Dieu, et il venait de la tribu de Juda. Pas de Benjamin, de Juda. Ça a toute son importance. David, il est arrivé en relation avec Saül, et pour quelle raison ? Pourquoi il est arrivé au palais, David ? Alors Dieu avait demandé à Samuel de loindre pour être le futur roi, alors que Saül était encore roi à ce moment-là, d'accord ? Mais comment David s'est pointé au palais sans être roi ? Je suis un peu sourd d'une oreille et je n'entends pas beaucoup de l'autre. Oui ? Vous avez dit ? Jouer, oui, mais pourquoi il venait jouer de la musique ? Oui, c'est ça, c'est ça. T'as pas parlé, mais j'ai compris. Oui, mais il est venu en particulier parce que Saül avait des problèmes assez particuliers. Quelqu'un a fait un geste, qui était suffisamment clair. Et c'est comme ça qu'il a vu ce qui se passait au niveau du palais. D'accord ? Alors c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Goliath avant, je ne veux pas l'oublier, mais malgré tout, c'était ça qui était important et c'est pour cela, et c'est une des raisons pour lesquelles il a atterri à ce niveau-là. D'accord ? Alors, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille un petit peu plus loin avec Saül. Saül, quelle était sa vie spirituelle ? Vous connaissez sa vie spirituelle ? En fait, avant d'arriver au pouvoir, on ne connaît pas grand-chose de sa vie spirituelle, pour ne pas dire rien du tout. La seule chose qu'on va voir, c'est que pendant son règne, le fameux Saül, là, n'a fait que désobéir à Dieu et faire des choses qui étaient strictement interdites. Souvenez-vous de la fois où Samuel devait intervenir pour faire un sacrifice avant une guerre, et puis Saül, impatient, a dit « Ouais, il n'est pas venu, je le fais moi-même ». C'est terrible. Mais la chose qui va encore un peu plus loin, c'est que Saül va interdire qu'on aille voir les diseuses de Bonaventure, les médiums, etc., et il va le faire lui-même. On va entendre à ce moment-là une phrase terriblement grave, mais importante, où Dieu dira qu'il va retirer son esprit de Saül. Il va retirer. Ce qui veut dire qu'il l'avait donné au début, mais il va le retirer. C'est un des rares cas, sauf erreur de ma part, où on va voir cette phrase, Dieu retirera son esprit de. Non, en fait, Saül n'était pas un gars qui était engagé avec Dieu. Il ne l'était pas. Il a été mis comme roi seulement parce que le peuple avait fait pression. Saül n'a eu que de cesse que de comprendre que de toute façon il allait être remplacé par David et ne voulait qu'une chose, c'est le tuer. Et il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait pour essayer de planter celui qui était devenu son gendre. C'est quand même quelque chose qui est incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On va aller beaucoup plus rapidement. Pour pouvoir dire qu'il y a eu David, un homme selon le cœur de Dieu, qui ne fait pas partie de la même tribu, qui a eu lui-même, moi j'aurais été à la place de Dieu, j'aurais pas fait ça, mais il avait ses raisons, et il avait raison d'avoir ses raisons, il a choisi Salomon. Quand on sait d'où vient Salomon, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es planté, il aurait pu quand même avoir un fils avec sa vraie femme, si je puis dire. Enfin bon, à cette époque, ouais bon, je passe. Après Salomon, ben vous savez que Salomon est un roi. Bon, David, on peut dire qu'il a eu une vie de roi qui était vraiment imprimée par les paroles de Dieu, même si à certains moments, il a fait des fautes graves, considérées à nos yeux, mais il a demandé pardon. Il a eu donc Salomon, et puis Salomon, il a bien commencé. Il a eu un certain nombre de choses de la part de Dieu qui étaient extraordinaires, comme la sagesse. Et puis, on voit qu'il avait, alors je ne sais jamais dans quel sens, 700 femmes et 300 concubines ou le contraire. Enfin, c'est pas grave, hein. Il n'en avait plus qu'une, hein. Ça c'est clair, c'est clair. Et on va voir par la suite, eh ben, c'est la déchéance qui va arriver. Et là, le royaume va être divisé en deux, avec 10 tribus au nord et puis 2 tribus au sud. Et si on va poursuivre la marche vers le Nouveau Testament, de quoi on va s'apercevoir? Donc, en vert clair en haut, on va voir qu'il y a des personnages qui apparaissent jusque Osée, -772, qui va donner lieu donc aux Samaritains, et les Samaritains, on les connaît un peu mieux. Mais Dieu avait fait une promesse à David et il a dit « Il y aura toujours une descendance sur ton trône de la tribu de Juda ». Et, derrière David, il n'y a pas beaucoup de rois qui étaient au-dessus de la normale, entre guillemets, et on peut toujours dire qu'il y a toujours eu des hicks dans leur relation avec le Seigneur. On va arriver donc jusqu'à cette période où tout d'un coup les rois, hop, c'est complètement dilué. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous voyez? Alors on a des gens qui sont intervenus grâce à Dieu. On a Esdras et Néhémie qu'on connaît bien, qui ont essayé de rappeler le peuple vers le Seigneur. Et puis, voilà, c'est là où je voulais en venir. Dieu n'a jamais voulu la royauté, c'est bien clair. Dieu n'a pas voulu Saül. Et quand j'ai fait la remarque tout à l'heure de pouvoir dire d'où venait Saül, de Benjamin, ce n'était pas la bonne tribu. La bonne tribu, c'était la tribu de Juda. Et Jésus est descendant de Juda. Et ça, on le sait, c'est la bonne tribu. En fait, quand Jésus va venir, alors nous, on a en tête ce qui est vrai, que Jésus est venu pour nous sortir du péché, pour s'offrir lui-même en sacrifice et nous permettre d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est une chose qui est vraie. La deuxième chose qu'on va souligner aujourd'hui, c'est qu'en réalité, c'est vraiment la solution de Dieu. Si le peuple à l'époque de Samuel avait prié le Seigneur, il y aurait eu une toute autre solution que ce qu'ils ont vécu pendant des siècles. Toute la souffrance qu'ils ont vécue pendant des siècles. Et en fait, la venue de Jésus, c'est, si je peux dire comme ça, le rétablissement de ce que Dieu voulait avant Saül. D'accord ? Où Jésus va devenir le roi des rois, le Seigneur des nations, etc., etc., tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce que je retire de tout cela ? Alors c'est vrai, il y a la préscience de Dieu, je ne veux pas l'oublier, surtout pas. Mais il y a un certain nombre de choses que je vais apprendre. Si Dieu donne une réponse à nos prières, ça ne veut pas dire pour autant que c'était ce que Dieu voulait. D'accord ? C'est dangereux ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est bien ce qu'on a vu. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu ne répond pas à mes prières. Oui, à certains moments, Dieu ne répond pas à mes prières, mais Dieu agit toujours. Si Dieu ne répond pas à mes prières aujourd'hui, c'est qu'il a un autre plan ou c'est qu'il va me répondre plus tard. Je dois m'attendre aussi à cela. Mais, quand je prie, mon objectif doit être d'être prêt sans cesse à faire la volonté de Dieu. Certains ont dit que la meilleure des prières que nous avions à formuler, c'était celle du cœur. D'autres diraient que la meilleure prière à formuler, c'est le Notre Père. Je pense que la prière à laquelle le Seigneur s'attend, c'est que nous puissions dire d'une manière réelle, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelle que soit notre manière de prier, Alors, j'aime beaucoup aussi une petite histoire, parce que quand même, je suis toujours un petit rigolo. J'aime beaucoup cette petite histoire qui est racontée. Et on dit qu'un jour, on a vu, dans un moment de prière, un enfant qui ne savait pas vraiment comment prier. Et il y a un adulte, là, qui a été surpris de sa réaction. Et l'enfant en question, il a récité l'alphabet. Et l'adulte à côté lui a dit, « Pourquoi tu récites l'alphabet ?» Et il lui a dit, « Je donne toutes les lettres à Dieu et lui va composer ma prière. » J'ai trouvé ça très intéressant. Quatre clés pour nous aider. Assure-toi que la Bible n'interdit pas ce que tu demandes ou que tu considères de faire. Vérifie que ta prière glorifie Dieu et qu'elle est une aide à ta croissance spirituelle. Ne prends pas de décision avant de soumettre ta question à Dieu et sois prêt à obéir. Amen. Je vais juste vous laisser, comme je disais tout à l'heure, je vous laisse un petit papier, comme ça il y a quelques points sur lesquels vous pourrez revenir, que j'ai vu là tout à l'heure, et puis vous pourrez marquer, tu es d'accord, merci de collaborer avec quelqu'un de sa famille. Voilà, je vais prier. Nous ne savons jamais, Seigneur, comment prier, mais nous savons que tu es un Dieu qui nous écoute. Nous savons que tu es un Dieu qui reste près de ceux qui te cherchent. Et nous te remercions, Père, parce que tu veux nous aider, non pas à t'imposer notre volonté dans ce que nous aimerions pour notre avenir, et te demander, Seigneur, bénis mes pensées. Mais nous voulons, Seigneur, et je te le demande pour moi-même aussi, je veux, Seigneur, ce matin encore te dire que ta volonté soit faite au travers de ce que je dis, au travers de ce que je fais, et permets-moi de pouvoir obéir en tout temps à ta volonté. Permets-moi aussi de prendre du temps, de consulter ta parole pour que je ne passe pas à côté de quelque chose que toi tu ne voudrais pas et donc que j'élimine de ma vie. Permets, Seigneur, aussi que, oui, je puisse être comme David, un homme selon le cœur de Dieu, qui sait consulter l'Éternel, qui sait demander pardon, qui sait vivre l'essentiel, c'est-à-dire vivre avec toi. Amen.